Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal, animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois, étape par étape, le processus devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul devant la Cour. Dans cet épisode, on va passer les recours en droit pénal. Vous avez reçu un constat d'infraction, vous vous demandez quoi faire, ça ressemble à quoi une procédure en matière pénale? Pour nous parler de ce processus, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Cynthia Lacombe, qui est avocate chez BMD Avocats et qui détient une vaste expérience de criminaliste sur tout le territoire québécois, en plus d'être une intervenante régulière à l'émission Isabelle Richer sur la chaîne RDI. Mais avant d'entamer ma discussion avec Maître Lacombe, je tenais à vous partager de petites mises en garde en lien avec les propos qui seront échangés au micro. Premièrement, c'est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées ne constitue en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de tout l'épisode et surtout, sachez que toutes les informations juridiques qui sont abordées reflètent le droit en vigueur au moment de l'enregistrement. Pour avoir accès aux liens qui seront évoqués tout au long de l'épisode ou aux diverses ressources qui sont mentionnées et pour en savoir un peu plus sur Hoche Légal, on vous invite à consulter la page hochelegal.ca ou encore à vous abonner à notre page Instagram ou Facebook, @hochelegal. Je m'appelle Camille Lavoie-Rancourt et je vous souhaite bon épisode. Merci d'être avec nous, Cynthia.
Ça me fait plaisir.
Bien, avant qu'on commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet de c'est quoi le pénal, comment ça se passe devant le tribunal, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expertise dans le domaine?
Oui, absolument. Bien, en fait, moi, ça fait 13 ans là, que je suis avocate. Donc, je pratique en droit criminel et pénal depuis toute cette période-là. Alors, mon expertise, ça va justement du constat d'infraction jusqu'à la Cour suprême. Alors, j'ai touché pas mal de choses. Puis, ça me fait plaisir de venir vous parler aujourd'hui du volet qui est plus pénal.
Puis là, ce balado-là, on parle beaucoup à des gens qui agissent seuls en matière pénale. Ouais. Dans le domaine du droit criminel, surtout du droit pénal, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se représentent seules, qui agissent seules devant les tribunaux?
Ah oui, absolument, absolument. Au niveau pénal, c'est vraiment pas rare, en fait, et c'est normal. Hein. Je pense qu'un constat d'infraction, on peut plus facilement, en fait, se diriger sans avocat, là, que ce serait dans d'autres sortes de droits ou dans d'autres sortes de causes. Et c'est assez fréquent, en fait, que les gens vont se représenter seuls devant le tribunal.
Donc, ça se fait, puis aujourd'hui, t'es là, merci, pour nous aider à y voir plus clair, à commencer par la distinction qui est assez nébuleuse pour plusieurs entre le criminel et le pénal. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux branches de droit-là?
Le criminel, en fait, une infraction criminelle, évidemment, c'est une infraction qui va être beaucoup plus grave en termes de conséquences. Donc, on parle d'une infraction qui va entraîner l'imposition d'un casier judiciaire et qui va avoir, évidemment, toujours dans la mesure où on serait coupable, avoir des conséquences, par exemple, une peine qui peut aller d'une somme monétaire à de la détention. Au niveau du droit pénal, c'est autre chose. C'est les constats d'infraction qu'on reçoit par les policiers quand on ne fait pas notre stop. Ça peut être de la contrebande de tabac, par exemple, quand on se fait, vous savez, les cigarettes, qu'on appelle communément les cigarettes indiennes. Ça n'est pas légal. Alors, au cas où il y a encore des gens qui doutent, c'est pas légal. Ce n'est pas légal. Alors, si on se fait pincer avec des cigarettes illégales, on va recevoir un constat d'infraction. Ce sont des constats d'infraction qui entraînent des conséquences de nature pécuniaire ou des pertes de points de démérite ou ce genre de choses-là, mais pas de casier judiciaire. Là. Ça reste pas avec nous là, pour le restant de notre vie, finalement.
OK. Fait que ça varie un peu en fonction des infractions, donc du comportement qui nous est reproché, mais ça varie aussi en fonction de la sanction qui va être appliquée au terme du processus si on est trouvé coupable.
Exactement.
OK. Puis, comment est-ce qu'on peut savoir, si on a reçu une citation à comparaître, est-ce qu'on peut déjà savoir, si citation à comparaître est au haut du document que j'ai reçu par la poste, est-ce que c'est pénal, est-ce que c'est criminel?
Citation à comparaître, c'est criminel. Il faut prendre ça au sérieux. En fait, il faut tout prendre au sérieux, même quand on reçoit un constat d'infraction. Mais non, une citation à comparaître, c'est criminel. Généralement, le constat d'infraction, on le reçoit soit sur place, donc le policier peut le délivrer tout de suite. Là, souvent, c'est le cas Hein, quand je parlais tantôt de faire notre stop, là, quand on se fait arrêter pour le code de la sécurité routière, généralement, on va le recevoir tout de suite. Sinon, on peut le recevoir par la poste. Mais c'est vrai que ça peut être difficile de faire la distinction, là, parce qu'un constat d'infraction peut avoir l'air aussi, peut ressembler vraiment à une citation à comparaître, là, bien franchement. Mais c'est écrit dessus, ça va être marqué soit sommation, citation à comparaître. Ça, c'est vraiment, on sait, c'est criminel. Okay? Mm-hmm. Ça, on le sait tout de suite.
Donc, les mots-clés, sommation, citation à comparaître, ouais, criminel. Exact. Puis de l'autre côté?
De l'autre côté, normalement, il est écrit constat d'infraction en quelque part dessus. Souvent, ça va être le poursuivant, ça va pas être le roi, là. Ça va être une ville ou ça va être le directeur des poursuites criminelles et pénales. Aussi, mais ça sera pas le roi a priori. Donc.
Le roi est pas en dessous de notre wiper quand on arrive à notre tour.
C'est ça. D'habitude.
C'est souvent la ville.
C'est ça. C'est
parfait, puis c'est important de le savoir parce que si je comprends bien les règles procédurales qui s'appliquent en matière pénale et en matière criminelle, c'est vraiment différent.
Il y a des choses qui s'entrecoupent, c'est sûr qu'il y a des choses qui se regroupent, mais en bout de ligne, effectivement, c'est différent. Il n'y a pas toutes les mêmes étapes qu'au criminel. Au pénal, c'est beaucoup plus rapide par ailleurs, là, puis on vient à bout finalement des dossiers beaucoup plus rapidement que ce serait le cas en criminel.
Puis justement, quand on parle de chevauchement, ce qui est sûr, c'est que dans les deux matières, on a des droits qui nous protègent. Oui. Quand on parle d'infraction pénale, on parle des fois d'interaction avec la police. Mm-hmm. J'aimerais qu'on parle un peu des droits qui nous protègent lorsqu'on est arrêté, détenu, interrogé par la police pour une infraction pénale. À commencer par la question du droit au silence puis du fait de « est-ce que je dois répondre aux policiers quand ils me posent des questions? »
Répondre aux policiers, pas nécessairement. En fait, vous savez, c'est jamais noir ou blanc. Fait que
chaque épisode, c'est juste une panoplie de nuances.
C'est ça. Les avocats, on fait souvent la blague que notre réponse la plus classique, c'est soit « ça dépend » ou bien « oui et non ». Alors, ça ne changera pas aujourd'hui. Ma réponse, ça va être « ça dépend ». Lorsqu'on se fait intercepter par un policier, on a l'obligation de s'identifier. Mm-hmm. Alors ça, c'est sûr, là, quand le policier vient vous voir, hein, « Savez-vous ce que vous avez fait? » Là, évidemment, on répond non. On lui dit pas oui. On confesse pas tout de suite.
On peut même attendre qu'il nous demande de nous identifier.
C'est ça. Alors là, il va demander permis de conduire, immatriculation, etc. Il faut lui donner, là. On a l'obligation de lui donner. Sinon... on peut se faire coller soit un autre constat d'infraction ou ça peut même devenir une infraction criminelle. Alors, ça, on le fait. Maintenant, si le policier nous demande des questions, par exemple, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez, ça, on n'a pas l'obligation d'y répondre. Généralement, on va le faire parce que...
On est stressé.
C'est ça.
On est suffisant de l'action.
Généralement, ça ne change rien non plus si on n'a rien à cacher comme tel, mais on n'a pas l'obligation de répondre à ces questions-là. Donc, ça, là, évidemment, je parle vraiment au niveau pénal, là, ouais, alors qu'on n'est pas dans le cas d'une enquête criminelle. Si c'est une enquête criminelle, je dirais autre chose.
On reste. Maintenant, on coupe. On a fait la distinction.
Parfait.
On est au pénal.
Parfait. Alors, à ce moment-là, c'est ça. Donc, on a l'obligation de s'identifier. On donne le permis de conduire, immatriculation, assurance. Et après ça, ben, on laisse le policier aller rédiger notre constat d'infraction dans son véhicule. Et idéalement, on ne lui dit rien, idéalement, au policier, parce que souvent, on voit... il ne faut jamais perdre de vue que le policier va tout noter. Alors, si on s'obstine avec, si on lui fait des commentaires désobligeants, il va le noter. Ça va être dans son rapport, éventuellement. Mm-hmm. Alors, on ne dit rien. On dit rien, on fait juste prendre le constat, puis on dit « bonne journée, monsieur ».
On prend une respire, puis après ça, on reste silencieux. Parce qu'au-delà de donner son nom, sa date de naissance, c'est son prénom, une pièce d'identité, par exemple, on n'est pas obligé de rien dire.
On n'est pas obligé, absolument pas.
Puis ça peut même nous nuire.
Ça peut même nous nuire, effectivement, dépendant de ce qu'on dit.
Puis si, par exemple, je mens au policier, dans mon identification, Je donne un autre nom, j'ai envie de faire une blague, etc. Ça aussi, ça peut me nuire, parce qu'étant donné qu'on a une obligation de s'identifier. Ouais. Donc, c'est vraiment l'idée d'être honnête quand on s'identifie.
Exact.
Puis après ça, de rester silencieux ou de ne rien... Exact, de rien dire.
C'est ça, exactement. Oui, ça peut être problématique. Donner un faux nom, c'est pas mieux, là. Ça aussi, ça peut devenir une infraction criminelle.
Mm-hmm. Même une petite blague, c'est pas le temps de niaiser.
Non, le moment est généralement tendu, puis souvent... on peut bien tomber, là, mais c'est, ça se peut que l'agent de la paix, ça y tente pas de faire des blagues à ce moment-là, alors on se restreint.
Puis c'est ça, comme on parlait, on disait que ce qu'on reçoit au final par la poste souvent ou qu'on retrouve sur notre véhicule, c'est un constat d'infraction. Ouais. Ça ressemble à quoi, ce document-là?
Celui qu'on vous remet sur place, là, en fait, c'est comme un, c'est un papier qui a plusieurs, qui a comme, qui est replié en fait sur lui-même, là, où il y a plusieurs, plusieurs informations. On a notre adresse, on a l'endroit où on s'est fait intercepter. En fait, l'infraction qu'on a commise, c'est-à-dire que ça va être un article, là, normalement, de, d'une loi. Là, de, je vais prendre l'exemple du code de la sécurité routière. Alors, disons qu'on a fait une vitesse. Bon, ça va être l'article 328 de mémoire, là, du code de la sécurité routière. On va voir le nombre de points de démérite que ça nous donne. Ce qui est très important, notamment si c'est une vitesse, parce que là, ça, ça va varier selon la vitesse. Puis on va trouver ce genre d'informations-là. À l'endroit, on va avoir le formulaire pour plaider coupable ou non coupable. Et on a aussi une petite, en fait, on a une page où il y a des lignes, normalement, où on peut écrire notre version des faits. À ne jamais remplir. Okay? À ne jamais
truc de pro.
Remplir. Exactement. Truc de pro. On ne remplit pas ça. De un, ça ne sert à rien. Parce que les personnes qui reçoivent le plaidoyer de non-culpabilité ne sont pas responsables, là, du dossier. Donc, ils ne vont pas le prendre en compte, votre explication. Puis, deuxièmement, on ne veut pas donner une explication avant qu'on ait reçu la preuve. Alors, on ne répond pas, on n'écrit pas notre version des faits. On plaide non coupable, on envoie ça et on attend d'avoir la preuve avant de répondre.
Donc, le constat d'infraction, c'est le premier document qu'on reçoit puis qui débute un peu le processus en matière pénale. Et c'est un document qui contient énormément d'informations importantes. Tu l'as nommé, c'est l'article de loi. Donc, on peut aller chercher un peu sur l'article de loi. Est-ce que ça peut être pertinent un peu de... Ensemble, est-ce qu'on pourrait un peu disséquer toutes les informations, juste une à la fois, l'article de loi, la peine, toutes ces informations-là qui, sur le papier, ont l'air de rien, mais qui... au final, explique le comportement qui est reproché à la personne.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. Bon, évidemment, la première des choses, il va y avoir l'identification du véhicule. Là. Fait qu'on peut confirmer que le policier, normalement, il n'y a pas d'erreur là-dedans, mais on le regarde quand même. Tout d'un coup, qu'il y aurait une erreur dans
ça
le type
si
de
simple.
Véhicule. Ça serait si simple. Ça n'arrive pas souvent. L'article de loi, c'est facile à trouver sur Internet. Fait qu'on peut facilement aller voir, évidemment, parce qu'il n'est pas écrit au long, là, lorsqu'on reçoit le constat. Mais généralement, il est écrit une petite phrase là, qui nous permet de comprendre facilement, là, le policier l'indique. Mais on peut aller faire des recherches là-dessus, effectivement, très facilement sur Internet, sur l'article de loi. On va voir la peine qui est demandée. Donc là, je dis n'importe quoi. Je mets amende, disons, 100 $.
Ouais.
Ensuite de ça, on va voir qu'il y a deux autres montants d'argent qui sont réclamés. Ça va être la contribution et les frais. Donc, la contribution qui est de, je ne sais pas, 15 $, mettons, puis les frais,
chiffre
on va
hypothétique.
Dire, c'est ça, chiffre hypothétique, là, frais de 15 $. Donc, lorsqu'on veut négocier à la cour, je devance peut-être, mais les frais, c'est le genre de choses qu'on peut négocier, par exemple, si on veut négocier le montant. La contribution, normalement, c'est mandatoire, là, donc ça, on n'a pas le choix.
C'est obligatoire.
Oui, c'est ça, exactement, de le payer. Sinon, je pense qu'on a fait le tour de ce qui est sur le constat.
Sur le constat. Ouais. Fait que c'est comme notre début dans l'entrée du monde du pénal. Puis ça vaut la peine de prendre le temps de s'informer, d'aller rechercher quel comportement nous est reproché. Parce que toutes les informations qui sont au constat vont être des informations importantes pour la suite, comme tu disais.
Exactement. Puis ce qu'on peut faire, en fait, encore une fois, truc de pro, truc de pro numéro 2. Ce qu'on peut faire, c'est rédiger, mettre sur papier tout de suite notre version des faits. Parce que par le temps qu'on reçoive la preuve, par le temps qu'on reçoive une date de cours, on ne s'en rappellera pas comme on s'en rappelle maintenant. Fait que si, dans notre tête, on le sait d'habitude, hein, mais on veut contester ou pas, si on est coupable, si on sait qu'on l'a fait, souvent on va dire « Ah, c'est beau, je vais le payer, là, tu sais, puis je vais prendre le 3 points de démérite. » Mais si on ne l'a pas fait, là, on le sait déjà, là, qu'on a l'intention de contester. Fait que on met notre version sur papier, comme ça on a le plus de détails possible, puis une fois qu'on reçoit la date de cours, on peut retourner dans nos notes pour voir « Hey, qu'est-ce qui est arrivé exactement? »
Ça nous rafraîchit la mémoire sur les événements.
Exact.
Puis, le constat d'infraction, c'est comme la première... c'est comme le début d'une conversation entre nous et le milieu judiciaire, parce qu'on nous envoie le comportement reproché, mais le constat d'infraction, ça attend une réponse.
Oui.
Ça, c'est le plaidoyer dont on parlait.
Oui.
Le plaidoyer, c'est quoi, ça?
C'est tout simplement, en fait, annoncer au poursuivant, là, à la personne, là, que ce soit le gouvernement du Québec ou le directeur des poursuites criminelles et pénales ou la ville ou peu importe, est-ce qu'on se reconnaît coupable de l'infraction ou est-ce qu'on plaide non coupable à l'infraction puis on souhaite la tenue d'une audition pour se défendre? Donc, on a 30 jours pour répondre là, au constat d'infraction. Donc, on peut prendre le temps d'y penser. Mais le délai de 30 jours est quand même de rigueur parce qu'après ça, bon, le dossier peut se retrouver de lui-même à la cour sans qu'on en soit avisé, là. Et ça pourrait procéder par défaut. Donc, c'est vraiment important d'enregistrer ce plaidoyer-là.
Puis, comme on disait, si on n'y répond pas, il peut y avoir des conséquences. On y reviendra peut-être à la fin de l'épisode, oui. Mais il faut y répondre, il faut choisir. Est-ce qu'on enregistre un plaidoyer de culpabilité ou non?
Oui.
Puis comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on prend cette décision-là? Quels éléments on devrait prendre en considération lorsqu'on enregistre le plaidoyer?
Bien, je pense que, je vais prendre un exemple simple. Prenons un stop, un panneau d'arrêt, là, okay? Juste comme exemple. Je pense qu'on le sait si on l'a fait notre arrêt ou on ne l'a pas fait. Fait qu'en partant, il y a des infractions comme ça qui vont être simples. Mais évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est se renseigner sur, et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, quand on se représente seul, c'est de savoir c'est quoi exactement que le poursuivant doit prouver, hors de tout doute raisonnable, pardon, pour qu'on soit coupable. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant que défendeur, on n'a pas, nous, à prouver quelque chose. Hein? C'est le contraire. C'est le poursuivant qui doit démontrer notre culpabilité. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des éléments essentiels de l'infraction. Puis souvent, il y en a plus qu'un. Hein? Par exemple, là, au niveau du stop, c'est pas juste « j'ai-tu arrêté? » C'est « j'ai-tu arrêté avant la ligne d'arrêt? Combien de temps j'ai arrêté? Est-ce que mes roues étaient immobilisées? » Alors, mais ça se trouve aussi sur Internet. On peut aller sur des sites comme Canly, par exemple, puis on peut taper des mots-clés. Je sais pas, moi, justement...
Stop.
C'est ça. Étiquette, stop, panneau d'arrêt, immobilisation, je ne sais pas. Puis ça se trouve dans d'autres décisions qui ont été rendues. On va les avoir, les éléments essentiels de l'infraction. Fait que là, on peut voir, puis on peut réfléchir par rapport à ce qu'on a vécu. OK, j'ai-tu effectivement fait, mettons, les trois éléments-là, moi, j'ai-tu fait ça? Oui, parfait, je conteste.
Puis vérifier la correspondance entre l'article qui est au constat d'infraction, donc le comportement reproché qui est défini par un article, et l'article qu'on voit dans les décisions,
exact.
Puis
oui, c'est sûr,
faire
c'est
les
sûr.
Recherches
oui, oui.
comme ça.
Oui, effectivement, tu as raison, il faut s'assurer que c'est le bon article
mais,
qu'on regarde.
Mais comme tu disais, au final, le constat d'infraction, c'est vraiment là où on va trouver le début de nos réponses, oui. Puis ensuite aller sur Canly, ce qui c'est est une ça. Ressource qu'on va, on va mettre aussi dans la description oui. du balado. Ça va nous permettre de vraiment cimenter notre compréhension de c'est quoi le comportement qu'on nous reproche, puis
c'est
de
ça.
Voir est-ce qu'il est prouvé ce comportement-là, ou est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas
exact.
Fait, est-ce que je veux agir seul et plaider non coupable.
C'est ça.
Puis si j'enregistre un plaidoyer, que ce soit de culpabilité ou non, est-ce que c'est possible de changer d'idée?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, j'ai dit oui, tout à fait, je reprends.
Nuance.
Oui et non. c'est possible de changer d'idée si on a plaidé non coupable.
Mm-hmm.
Si on a plaidé coupable, changer d'idée, ça n'est pas simple. Parce qu'en fait, je dirais même que c'est impossible si c'est par notre propre décision qu'on a plaidé coupable. Il y a des cas, par contre, où c'est possible de changer d'idée, c'est-à-dire de faire un appel et de faire une requête pour retirer notre plaidoyer. Dans le cas, par exemple, où j'ai laissé traîner un ticket sur le comptoir, puis là, ma mère a dit « je vais le payer pour lui ». Puis là, ma mère va le payer, puis là, je ne voulais pas le payer. Je peux aller faire valoir ça au tribunal, OK? Mais c'est complexe.
C'est pas
simple. Ouais, non, c'est ça, exactement. Alors, on peut... Mais si on plaide non coupable, puis par la suite, on va jaser avec le procureur de la Couronne, peut-être qu'on va venir à une entente, peut-être que le procureur de la Couronne va être d'accord avec nous, peut-être, tu sais, alors à ce moment-là, on peut effectivement, le plaidoyer de non-culpabilité peut être modifié par la suite.
Puis est-ce qu'il y a des conséquences? Par exemple, on a plaidé non coupable, puis là, justement, on va jaser avec le procureur de la Couronne.
Oui.
Et on se rend compte, bon, finalement, je vais le payer, je vais plaider coupable et payer l'amende. Est-ce qu'il y a des conséquences additionnelles?
Ça dépend.
Encore? Des petites nuances?
Ça dépend parce qu'en techniquement, oui. Là, il y aurait des frais additionnels parce que là, on va avoir, par exemple, un frais de changement de plaidoyer qui, d'habitude, n'est pas très élevé. Mais il pourrait avoir les frais de cour aussi. Il pourrait avoir... Donc, oui, il y a des
ça
frais...
Ça dépend du moment où on change
exact.
D'idée.
Exact. Oui, effectivement, ça dépend du moment où on change d'idée. Souvent, par contre, il est possible de discuter avec le procureur de la Couronne là, dans l'optique là, où on voudrait plaider coupable puis demander de limiter les frais à ceux du constat. Donc, à ce moment-là, ça serait un plaidoyer tel quel, comme il est écrit sur le document, et il n'y aurait pas de frais supplémentaires, généralement, c'est accepté. C'est très, très rare là, que ce genre de demande-là est refusé.
Donc, on plaide dans l'hypothèse où on plaide coupable, on paye les frais, le processus se terminerait à ce moment-là, au moment du paiement de la peine,
oui, exact.
Donc de l'amende.
Oui.
Mais si on plaide non coupable,
oui.
La prochaine étape, c'est ce qui va nous mener devant le processus au tribunal.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on va savoir qu'il faut se rendre à tel jour, telle heure, devant la cour?
Bon, mais une fois qu'on plaide non coupable, en fait, là, il y a un dossier qui va être ouvert, un numéro de cour qui va être créé. Normalement, on va nous envoyer la preuve par la poste. Mm-hmm. Et éventuellement, on va recevoir, en fait, un avis, une convocation, finalement, au tribunal. Donc, on va recevoir une date, puis ça va nous dire, bon, bien, regarde, ton audience est prévue pour telle date, telle heure, telle salle, telle ville. Sois présent. Pas de panique. Si jamais on n'est pas disponible, il y a moyen... Parce qu'évidemment, on n'a pas le choix, là. Hein? On nous envoie une date, puis c'est arrangez-vous, là. Il y a moyen de communiquer avec la cour et de remettre l'audition à une autre date si jamais on n'était pas disponible. Mais si on est disponible, alors on peut se présenter. C'est la cour qui nous avise, en fait, là.
Puis, si jamais ça fait un quelque temps qu'on attend, on ne reçoit pas l'avis d'audition, on a l'impression que ça se peut qu'il soit perdu ou qu'on l'ait reçu puis qu'on ne s'en soit pas rendu compte, est-ce qu'il y a un autre moyen de savoir à quelle date, quelle heure? Est-ce qu'il y a une disposition ou un outil à la disposition des gens qui peut nous permettre de savoir quand est-ce que notre dossier va être entendu?
Moi, je ferai la vérification. Tout simplement, j'appellerai à la cour, en fait, de la ville en question, là, où j'appellerai le poursuivant, là, finalement. Je lui demanderai carrément de faire la vérification parce qu'effectivement, on veut pas manquer la date non plus parce qu'après ça aussi, c'est compliqué, là, si jamais on a manqué notre date. Donc, moi, c'est comme ça que je le ferai. C'est plus facile. Il y en a des outils pour les avocats, mais ils ne sont pas nécessairement... En fait, c'est des outils payants.
Mm-hmm.
Donc, peu pratique là, pour le public en général. Là.
Fait que d'appeler, c'est possible,
oui,
aussi. Puis
absolument.
De toute façon, tous les tribunaux puis les procureurs sont quand même au courant de l'agenda de la cour, si on veut, ou du
exact.
Rôle, comme on appelle.
Oui, parce qu'en fait, avec le numéro... On a un numéro, c'est le numéro du constat d'infraction. Ça aussi, ça a un numéro. Avec ce numéro-là, on va être capable de le trouver.
Donc, on a notre date, on a
ouais.
notre jour, notre heure, on a pris congé, ou on... évidemment, parce que c'est des jours de la semaine
ouais.
que le tribunal est ouvert.
Ouais. Ouais.
Et c'est le jour J, on se rend au tribunal. À quoi s'attendre? J'aimerais qu'on aborde un peu
ouais.
à quoi s'attendre le jour du procès, à quoi ça ressemble quand on se rend au tribunal. Est-ce qu'on est le seul dossier qui va être entendu ce jour-là?
Non, il y a beaucoup de dossiers au rôle. Malheureusement, j'aimerais bien vous dire oui, mais non, c'est pas le cas, en fait. Et c'est comme ça dans tous les types de droits, je pense. Quand on va à la cour, on sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait jamais à quelle heure on sort de là.
Mm-hmm.
Alors, il faut prendre sa journée au complet, ou sa soirée, ou enfin, peu importe, là, quelle est la plage horaire là, qui est disponible. Mais prenons pour acquis que c'est à 9h30 le matin.
Mm-hmm.
Je ne peux pas vous dire là, à quelle heure vous allez passer, ni à quelle heure vous allez sortir, ni c'est quoi l'ordre. Alors, normalement, comment ça se passe là-bas à la cour? On a ce qu'on appelle un appel du rôle au début de la journée. Alors là, le juge et la greffière ou le greffier, ils nomment toutes les causes, là, une à la fois, pour savoir qui veut procéder, qui veut régler, qui est présent, qui n'est pas présent. Et une fois que ça, c'est fait, normalement, on suspend, c'est-à-dire le juge se retire. Et là, tous les gens qui veulent discuter avec le procureur peuvent le faire.
Okay.
Alors, à ce moment-là, on peut aller... Mettons que notre intention, ça serait de voir si on peut régler le dossier autrement ou si on peut exposer certains arguments. C'est le moment de le faire.
Fait que si on revient sur la première étape, on rentre
oui.
dans la salle,
oui.
puis là, il y a comme une prise de présence.
Oui, c'est un peu ça. C'est ça, une prise de présence.
Il y a plein de monde dans la salle,
oui.
plein de personnes qui vont faire entendre leur dossier devant
oui.
le tribunal. Le
oui.
tribunal prend les présences et demande qui veut procéder. Qu'est-ce que ça veut dire, qui veut procéder?
Généralement, en fait, je ne sais pas s'il va demander qui veut procéder. Il va demander qui a un avocat, qui n'a pas d'avocat,
ouais.
qui est présent, qui n'est pas présent. Il va demander, en fait, quelle est votre intention.
Mm-hmm.
Puis là, c'est vous qui allez dire soit je veux témoigner ou je veux... Généralement, c'est comme ça. Donc, procéder, ça serait ça.
Mm-hmm.
Procéder, ça veut dire faire entendre la preuve. Donc, la couronne, souvent, Je dis la couronne, là, même si c'est pas on le roi, là, ouais. C'est pour faciliter. C'est pas le roi, mais elle porte une couronne quand même. Non, non.
Puis, vous allez les reconnaître, vous allez... ils ont une grosse couronne.
C'est ça, exactement.
Non, voilà. Mais pour être clair, c'est les personnes qui sont... ben, qui représentent,
le poursuivant,
qui vous poursuivent. Ouais.
C'est ça, le poursuivant, j'aurais pu utiliser ça. C'est un défaut professionnel, je fais beaucoup de criminels, alors j'ai l'habitude de dire la couronne. Alors, eux vont souvent juste déposer le constat d'infraction, parce que le policier, lui, dedans, il a tout rédigé déjà, qu'est-ce qui est arrivé. Sinon, si c'est un dossier plus complexe, ça va arriver que les policiers vont être sur place pour venir témoigner. Puis ensuite de ça, une fois que la preuve du poursuivant est close, elle est terminée, là, on fait notre preuve en défense. Donc, j'imagine que la personne vient témoigner. Peut-être a-t-elle d'autres témoins, peut-être a-t-elle des preuves documentaires, peut-être ça, on peut en explorer ça.
Jasons-en,
aussi.
On est là. Parlons-en justement. Et quelles preuves on peut emmener au tribunal? Qu'est-ce qui est pertinent d'emmener au tribunal?
Évidemment, ça, c'est du cas par cas. Ça va dépendre dans chaque dossier. Donc, c'est sûr, je ne peux pas donner une réponse at large. Par contre, ce qui est pertinent, évidemment, ça arrive des fois qu'on a, par exemple, un passager dans le véhicule. Bien, le passager a été témoin des mêmes événements que nous. Alors là, ça peut être pertinent de lui demander de nous accompagner au tribunal, de venir donner sa version des faits. Si on a, je prends l'exemple d'un un constat pour cellulaire au volant. Il y a des preuves matérielles peut-être qui peuvent être pertinentes dans un cas comme ça. Par exemple, si on exprime le fait qu'on n'était pas au téléphone, qu'on ne l'utilisait pas, etc., le relevé téléphonique peut avoir une certaine pertinence, parce qu'on va le voir qu'il n'y a pas eu de message texte, qu'il n'y a pas eu d'appel. Même les appels Messenger et ces affaires-là, on le voit maintenant sur les relevés cellulaires. Alors, c'est super pertinent, parce que je veux dire, à un moment donné, pourquoi je tiendrais mon téléphone de même si je n'ai pas eu d'appel? T'sais, j'imagine que je n'écoute pas ma musique comme ça dans mon char. Je ne sais pas. Ceci dit, c'est ce genre d'éléments-là. C'est sûr que ça varie au cas par cas, puis mais c'est des exemples comme ça là, que je pourrais vous donner.
Par exemple, supposons qu'on a fait un stationnement, puis qu'il y a le poteau de signalisation qui disait qu'on ne pouvait pas stationner là était dissimulé derrière des branches. On peut avoir pris des photos sur le coup, on pourrait déposer ça. Fait que ça peut être des photos, des documents, ça peut être des personnes qui viennent compter leur version, puis des versions qui, évidemment, confirment... nous, notre histoire.
C'est ça, exactement.
Puis il ne faut pas s'attendre à ce que le ou la policier, policière soit là le jour de l'audience devant le tribunal. Comme tu disais, c'est vraiment... il y a quelqu'un d'autre. C'est un nouveau visage. C'est possible qu'on ne l'ait jamais rencontré avant. C'est le poursuivant qui va être là.
Le plus souvent, oui.
Si on veut que le policier soit là, par exemple, il y a une procédure à faire.
Oui. Si on veut absolument que le policier soit là pour lui poser des questions, ce qui... en toute honnêteté, n'est généralement pas le cas.
C'est rare.
C'est très rare. Mais admettons qu'il y a quelque chose de particulier, là, bien, on peut demander au poursuivant de l'assigner. Parce que nous, en tant que citoyens, évidemment, on a avoir de la misère à faire ça. Là. Alors, on peut demander au poursuivant, puis normalement, ils vont le faire. Là. Si moindrement la raison est bonne, sinon, on peut toujours reporter l'audience.
Mais là, ça devient...
En tout cas, c'est ça.
À se renseigner si besoin.
C'est ça.
Fait que si on revient au jour J, le jour de l'audience, on arrive, je répète un peu, mais on prend les présences, on dit qui veut présenter, bien, pas qui veut présenter, il n'y a pas de levée de main, là, mais on présente notre preuve. Puis, on parlait d'une rencontre, possiblement, avec le poursuivant.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que c'est, ça?
La rencontre avec le poursuivant, c'est juste, souvent, ils ont un bureau là, qui est juste à côté de la salle de cour, puis on peut aller s'installer là, un par un, évidemment, inquiétez-vous pas, là, c'est pas tout le monde en même temps. On peut aller discuter avec le procureur, puis par exemple, si notre objectif, c'est de dire, écoute, là, les points de démérite sont bien trop élevés, je sais pas moi. Je prends pour exemple une vitesse. Bon, disons une vitesse, 9 points de démérite. Mais là, c'est trop, là. Moi, je vais perdre mon permis si je perds 9 points de démérite. Fait qu'il y a moyen d'aller voir le procureur et de dire, écoute, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Puis souvent, les procureurs, ils vont être compréhensifs, là. Fait que par exemple, on se dit, bien, OK, on va réduire la vitesse. On va réduire la vitesse, mettons, je sais pas moi, tiens, 6 points de démérite. Tu perds-tu ton permis avec 6 points? Non, parfait. Merci, bonsoir. On vous donne un formulaire là, à remplir, un plaidoyer de culpabilité, on va le déposer au tribunal.
Fait que c'est une négociation.
Une négociation, exactement.
Parce que le poursuivant, d'une certaine manière, lui aussi, ça peut l'arranger qu'on ne prenne pas une journée de cours pour présenter de la preuve si on peut arriver à une entente.
Tout
puis le
fait.
Plaidoyer, c'est valable. Ça
oui,
a une valeur.
Absolument.
De dire, oui, je plaide coupable, pas besoin de procès, pas besoin de passer devant le tribunal. Donc, c'est possible de négocier en se rappelant qu'on a un jeton de notre bord. C'est notre plaidoyer de culpabilité.
Tout à fait. Des fois, il peut y avoir aussi d'autres choses. C'est peut-être qu'il y a quelque chose dans le constat d'infraction qui n'est pas tout à fait exact ou qui est pas, ou peut-être qu'il manque l'information. Ou, on peut... Donc, ça peut ouvrir la porte à la négociation aussi s'il y a des petites erreurs qui, vont pas nécessairement entraînerait un acquittement automatique, mais des fois, ça peut quand même servir à négocier et dire « Ouais, OK, il y a cet élément-là, c'est vrai. » Puis, donc, c'est une discussion qu'on a avec le procureur, puis on lui fait part, en fait, de ce qu'on a constaté.
Puis, est-ce que ça vaut la peine de montrer la preuve qu'on a emmenée au tribunal au procureur ou on risque de brûler nos cartes, là, si on...
Bien, en fait, le procureur, il va pas, il est pas là pour, en bon québécois, patcher quoi que ce soit. Là. Une fois qu'on lui... C'est pas parce qu'on lui exhibe qu'il va ajuster sa preuve. Mm-hmm. Alors, moi, je vois pas de problème à lui divulguer parce qu'en fait, surtout dans la mesure où notre objectif, c'est de ne pas aller devant la cour raconter notre histoire, mais peut-être tout simplement là, de régler le dossier tout de suite, là, sans nécessité de passer devant le juge. Moi, je lui exhiberais. Alors, on peut lui montrer, effectivement, mais regarde, tu parlais d'un arbre, tu as un stop caché par des branches, là, tantôt. Mm-hmm. Regarde, j'ai pris des photos, je peux pas voir ça. Là, le procureur, il va le voir, mm-hmm. puis il va prendre une décision, il va dire, c'est soit, oui, vous avez raison, je vais retirer le constat, ou, écoutez, ça fait 10 ans que le stop est là, je suis pas d'accord, on va procéder. Mm-hmm. Tu sais, ça peut être ça aussi. Le procureur est pas obligé, là, évidemment, d'accepter... de négocier ou d'accepter nos arguments. Ça se peut qu'ils procèdent là.
Puis nous aussi, on n'est pas obligé si jamais l'offre qui nous est faite pour le plaidoyer nous convient pas. Bien, c'est pas le procureur ou le poursuivant qui a le dernier mot. On peut encore aller au tribunal, même si on rencontre le poursuivant.
Ah non, c'est ça, exactement. Là. On n'est pas obligé d'accepter l'offre qui nous est faite du tout. On prend la décision une fois qu'on a eu la discussion. Puis, en fait, une fois qu'on retourne dans la salle de cour, c'est un peu comme si la discussion n'avait pas eu lieu. Tu sais, C'est confidentiel, tout ça, hein? Fait que on repart à zéro, puis on présente notre preuve.
Puis, justement, quand on parlait de présenter notre preuve, puis que de l'autre côté, le poursuivant allait aussi présenter sa preuve, puis des fois, à cause de la télé-réalité, bien, en fait, moins réalité, plus télé,
ouais.
Puis les télé-novelas, on a l'impression qu'il peut y avoir un retournement de situation, une nouvelle preuve qui est présentée, que c'est très dramatique, tout ça. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une preuve qu'on connaît pas, que le poursuivant présente?
Non, pas sans nous l'avoir divulguée d'abord. Fait que si c'est possible, par contre, que le procureur reçoive une nouvelle preuve entre-temps qui nous ait pas été communiquée, par exemple, ça peut arriver. Évidemment, puisque le poursuivant sait pas à ce moment-là, est-ce qu'on va être là, est-ce qu'on a un avocat, est-ce qu'on en a pas, t'sais, ils le savent pas, fait qu'ils peuvent pas nécessairement nous le communiquer. Si c'est le cas, le procureur va nous donner une copie de la preuve. Là, on n'aura pas le choix de reporter l'audience, par exemple, parce qu'il faut qu'on en prenne connaissance et tout ça. Mais il n'y a pas de surprise. Le procureur ne va pas sortir un lapin de son chapeau là, en pleine audience.
On vous
en... Oui, c'est ça.
Surprise! Vous êtes coupable!
Ils ne font pas ça, là, je vous assure. Là, soyez sans crainte.
On a un droit de connaître la preuve.
Oui, c'est ça, exactement. Puis la divulgation de la preuve, c'est continu. Là. Fait que tant qu'ils en reçoivent, ils vont nous la donner.
Alors. Puis on va avoir le temps d'en prendre connaissance, de réfléchir, puis peut-être que là, on va décider, la négociation, ça peut être intéressant, finalement.
Oui,
peut-être
exact.
Que j'aimerais faire un plaidoyer si la peine est ajustée.
Parce qu'il y a des endroits aussi là, où c'est filmé. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y a des villes où les véhicules patrouillent ont des caméras. Fait que souvent, par exemple, t'sais, des fois, on pense qu'on a fait notre stop, puis finalement, on se regarde sur la vidéo, puis on dit « Ouais, je l'ai fait ». Finalement...
Il était mince.
C'est ça. Fait que j'ai vu ça souvent, en fait. Là, puis finalement, des gens qui décident de plaider... La preuve est accablante, comme on dit. Alors, ouais. À ce moment-là, on peut changer d'idée.
OK. Puis justement, là, quand on se retrouve avec un... On décide d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité où on est trouvé coupable par le tribunal, bien, il y a une peine qui suit. Parlons-en un petit peu de la peine... Combien, ça ressemble à quoi, les peines au pénal? Évidemment, ça varie.
Ça varie beaucoup.
Ça dépend.
Ça dépend. Ça dépend c'est quoi. Si je reste dans le cas de la sécurité routière, on parle d'amendes là, qui vont entre, je sais pas, là, je dirais 100 à 2000, 3000, dépendant. Là, si c'est des très grandes vitesses, c'est très cher. Il y a certaines infractions qui sont plus chères que d'autres. Si l'heure au volant, c'est cher. Passer devant un stop, un panneau d'arrêt d'un autobus scolaire, c'est pas donné. Délit de fuite, c'est très cher. Mais sinon, en général, c'est quelques centaines de dollars là, quand on se situe dans des infractions plus régulières, comme un panneau d'arrêt ou une lumière rouge ou une basse vitesse. Là.
Puis, des fois, cet argent-là, il est pas dans le budget du tout.
Non.
En fait, rarement dans le budget. Rarement, on se prévoit, janvier... amende au pénal.
J'en mets 1 500 $ de côté pour mes tickets.
Comment est-ce qu'on peut avoir une entente, par exemple, avec le tribunal pour faire ce paiement-là de l'amende? Est-ce qu'il y a un délai dans lequel il faut que je le paye?
Oui, il y a toujours un délai qu'on nous donne. Ça, on va le juge va nous le ou la juge va nous le demander, en fait. Combien de temps vous avez besoin pour payer? De mémoire, le maximum, c'est 12 mois qu'on peut prendre. Mais généralement, ils vont nous donner plus comme 30-60 jours là, pour le paiement de l'amende. Par contre, donc on ne va pas prendre entente avec le tribunal comme tel, mais on peut prendre entente avec le percepteur des amendes. Mm-hmm. Donc ça, c'est tout simplement un organisme gouvernemental, là, c'est la même chose, là, on va les rencontrer, ou en fait, là, c'est peut-être par téléphone maintenant, puis on peut, ils vont nous regarder notre budget un peu, puis ils vont dire « bon, mais regarde, c'est correct, tu vas payer tant par mois ». Mm-hmm. Puis ça, il faut le faire à l'intérieur. Ben, mettons que le juge nous a donné 60 jours pour payer l'amende. Il faut vraiment contacter le percepteur ou prendre entente là, avec le greffe dans les cours municipales, des fois. Il faut vraiment que ce soit fait à l'intérieur du délai de 60 jours. Il ne faut pas qu'on le dépasse, parce qu'après ça, ce ne sera plus possible de prendre l'entente. Donc, le délai de rigueur.
OK. Donc, on regarde notre délai, on regarde le moment. Puis le délai, il commence à partir de quand?
La culpabilité. La journée où on est trouvé coupable, le délai commence à ce moment-là.
Donc, le sablier commence à courir pour 60 jours à partir du moment où on est trouvé coupable ou qu'on a enregistré, par exemple, notre plaidoyer.
Oui, exact.
Puis, à partir de 60 jours, donc 2 mois environ plus tard...
C'est ça.
On doit avoir payé l'amende, donc c'est important d'appeler. Puis on va le mettre dans les ressources, ça aussi...
Oui, le percepteur des amendes, c'est ça, exactement. Ça varie là, de ville en ville, je pense. Là, mais
Il y a des ressources.
Oui, c'est ça. Il y a toujours possibilité de prendre entente, bref, est ce que j'essaie de dire. Là.
Puis, est-ce qu'il y a possibilité de faire des travaux compensatoires à la place d'amende?
Dans de rares cas, dans de très rares cas, des gens qui ne sont vraiment pas en mesure d'acquitter les sommes, là. Il y a effectivement la possibilité, c'est prévu dans le code, là, la possibilité de faire des travaux communautaires à la place. C'est très rare, par contre. Il faut vraiment qu'on soit dans l'incapacité totale de payer.
Donc, si je récapitule, on a la possibilité d'échelonner le paiement, donc de le diviser par petits montants sur plusieurs mois. Par la suite, si ça fonctionne, il faudra appeler le percepteur. Puis, si dans les rares cas où ça fonctionne pas, puis que nos capacités financières sont vraiment... c'est pas possible de payer cette amende-là dans un délai, bien, il y a la possibilité de travaux compensatoires, mais il faut se renseigner. C'est plus exceptionnel que le percepteur. On commence par le percepteur.
C'est ça, exactement.
Parfait. Puis, au tout début, on parlait de ce qui se passe, supposons que... On ne répond pas au plaidoyer de culpabilité. On n'enregistre pas de plaidoyer de culpabilité, donc on ne répond pas.
À notre constat d'infraction.
Constat d'infraction, merci, experte. donc on ne répond pas, puis on parlait de jugement par défaut.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ça, un jugement par défaut?
Bien, en fait, c'est ça. C'est que là, on a notre constat, on n'a pas répondu. Normalement, la cour a la courtoisie de nous envoyer une lettre pour nous dire « t'as pas répondu ». Est-ce que tu peux répondre? Mais des fois, soit qu'on ne la reçoit pas ou soit que les gens ne répondent pas, à ce moment-là, le dossier va se retrouver tout seul. Il va se retrouver sur le rôle, puis il va être entendu sans nous. On peut être, évidemment, à ce moment-là, trouvé coupable par défaut, c'est-à-dire en notre absence, finalement, alors qu'on n'est pas là.
Puis il y a des conséquences.
Bien là, c'est sûr qu'il va falloir payer on va être coupable. Alors, tous les points de mérite, l'amende, tout ça, on va recevoir ça chez nous avec des frais de cours, des frais supplémentaires, là, évidemment, à payer. Donc, c'est recommandé, disons, de répondre au plaidoyer et d'éviter cette étape-là.
Bien, parfait. Ça nous amène à la fin du processus. On est rentré. On a commencé avec le constat d'infraction, puis on se retrouve avec la peine.
Ouais.
Comme tu l'avais dit au début, il y a des gens qui le font, qui agissent seuls en matière pénale. S'il y avait une chose que ces personnes-là avaient à retenir de tout ce processus-là en droit pénal, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu leur suggérerais, la règle numéro un, le truc de pro en or?
Le truc de pro en or? Bien, c'est un peu ce qu'on a parlé au début, en fait. Vraiment, le truc de pro en or, c'est avant... d'aller au tribunal, tu sais, avant d'aller contester, c'est vraiment de s'assurer qu'on a une défense à faire valoir. Puis la raison, évidemment, ça fait 13 ans que je fais ça, donc vous comprendrez que j'ai été assise dans des salles de cours vraiment souvent dans ma vie. Alors j'en ai vu là, des gens se représenter seuls, et souvent, ce que je remarque, c'est que les gens n'ont pas de défense à faire valoir, en fait. Alors, ils vont aller donner leur version des faits, mais en bout de ligne, cette version-là n'est pas une défense à l'infraction. Fait que le juge... même s'il trouve sympathique, même s'il aimerait ça, ne pas les condamner, il est obligé. parce qu'ils n'ont pas fait valoir de défense. Alors, règle numéro un, s'assurer des éléments essentiels de l'infraction. Fait que s'assurer vraiment qu'on sait c'est quoi que le poursuivant faut qu'il prouve, puis est-ce qu'on est capable, nous, de réfuter ça, en fait. Fait que vraiment ça, puis ensuite de ça, ben s'assurer... Deuxième truc de pro, encore au troisième, quatrième, je sais plus où je suis rendue, ordre chronologique. Mm-hmm. Quand on met son histoire, que ce soit sur papier devant le tribunal, ordre chronologique. N'oubliez jamais que la personne qui vous écoute n'a aucune idée de ce que ouais. vous allez lui dire. Faut pas que ce soit décousu, que ça passe à Chibougamau pour revenir à Québec, là. Mm-hmm. Ordre chronologique, ça fait des miracles. Fait que ça, c'est mes deux conseils.
On compte son histoire de A à Z, puis on fait pas des détours c'est par ça. 1, 2, 3, 4.
C'est ça. C'est ça.
Ben merci beaucoup, Cynthia. Ça termine l'épisode d'Ensemble à la Cour. On a eu le plaisir de s'entretenir avec maître Cynthia Lacombe. Pour accéder à toutes les ressources qui ont été mentionnées au fil de l'épisode ou pour en savoir plus sur Hoche Légal, vous pouvez nous visiter sur notre site web, hochelegal.ca, ou vous abonner à notre compte Instagram ou Facebook, @hochelegal. Je m'appelle Camille Lavoie-Rancourt. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode d'Ensemble à la Cour.